Merci Lionel, merci de cette gentille introduction. Je suis un peu impressionné venant du pays des Bayous où tout est informel d'être cette pièce. J'ai l'impression d'assister à un board meeting. Heureusement qu'il y a le drapeau acadien à côté de moi. Je ne serai plus ici le 15 août, mais je serai à Saint-Martinville. Il y aura la messe en français dans la plus vieille église du pays cajun, et puis une cérémonie au mémorial acadien à laquelle j'assiste chaque année. Je voudrais en préliminaire honorer celui qui aurait dû être là et dont le nom figure en tête du dictionnaire, Jacques van der Linden, qui m'a sans doute donné le plus beau titre qui vaut à mes yeux bien plus que le doctorat et toutes ces autres choses, puisqu'il m'a qualifié d'alter ego. Il est ici avec nous, il est présent par le cœur, il ne quitte presque plus Bruxelles. Il va à Paris de temps en temps, mais sa femme a une mobilité maintenant très très réduite. Il regrette bien de ne pas être parmi nous. J'étais avec lui il y a 4 semaines, il m'a chargé de vous transmettre un message d'amitié et je garderai 2 minutes pour tout à l'heure, au moment de la présentation du dictionnaire, vous lire une lettre, un message qu'il vous adresse. Il a été séduit par ce jeu du dictionnaire que je vais déroulé devant vous. J'aurais aimé tenir mon propos de manière interactive, vous jeter comme cela les lettres du dictionnaire et vous demander de réagir et de me donner des mots, mais ça aurait pris toute la matinée. Je veux faire cela sous forme de promenade et de lettre en lettre, de mot en mot, vous décrire un petit peu le parcours du comparatiste. Parcours d'un comparatiste formé au droit civil, qui a découvert ensuite la common law, qui enseignait la common law en français. Maintenant, j'enseigne civil law in English, le droit civil en anglais. Mais tout de même, 15 août oblige, j'ai créé cette année à l'Université d'État de Louisiane un cours d'introduction au droit français que j'enseigne en français à Bâton Rouge. Il y a tout de même eu 6 étudiants, 2 auditeurs, et c'est un très très beau début, un début prometteur. La langue française revient un petit peu. Le Journal of Civil Law Studies, occasionnellement, aussi, publie des articles en français. C'est une revue aussi qui se veut bilingue et multilingue. Revenons à notre promenade. L'alphabet a 26 lettres. Ça va faire une course, si je veux retenir, saisir un mot pour chacune de ces 26 lettres. 26, c'est un peu plus que les stations du chemin de croix. J'espère que ce ne sera pas un chemin de croix pour vous. C'est vendredi 13, pas vendredi saint. Je suis né un 13, je me suis marié le 26, 26 lettres. Allez, allons-y avec le A. Le A comme autre ou altérité. Le comparatiste s'intéresse à l'autre, à ce qui est, à celui qui est autre. Et A, c'est aussi la lettre de l'amitié. Et là, je me souviens d'un mot de Julien Freud, que mon directeur de thèse, Hans Albrecht Schwarz Zimmermann von Wallendorf, allemand. Vous voyez, j'ai été formé au droit anglais par un juriste allemand, vraiment dans le multijuridisme. Il aimait bien citer Julien Freud qui disait qu'il y a de l'amitié dans le droit. B, comme bibliothèque. J'ai donné il y a 2 ans, je crois, une interview dans la lettre du Centre français de droit comparé qui avait été intitulée « Une vision bigarrée du droit et des mots ». Et mon intervieweur, qui était Didier Lamette, me demandait ce qu'était pour moi la bibliothèque idéale. Alors je lui avais dit que, bon, c'était sans doute pas celle de Borges, elle m'a fait peur, elle ressemblerait plus à celle de Echo, et j'ai travaillé dans la vieille Squire Library à Cambridge, qui ressemblait à une église avec ses vieux rayons de livres. Et la bibliothèque, pour moi, elle aurait trois sections. Une première, très très grande, où il y aurait pas mal de monde, dans laquelle il y a les livres de droit de tous les pays, les livres qui ne parlent que de droit. Il y aura peu de sièges ou des sièges assez raides dans cette partie parce que les gens, dès qu'ils ont trouvé la page qui les intéresse, vont la photocopier, la scanner, etc. La deuxième section, on y trouverait les lois et la jurisprudence de tous les pays. pas beaucoup de monde, surtout des cheveux blancs dans cette section, parce que maintenant, ces documents, on les trouve en ligne. Donc, il y aura des sièges bien confortables pour les personnes qui n'utilisent pas encore les moyens électroniques. Et puis, la troisième section, celle qui m'intéresse le plus, c'est celle dans laquelle on trouvera toutes sortes de livres. On y accédera par un escalier tortueux, obscur. Il y a un parcours, il n'y aura pas trop de lumière, parce que la lumière, elle est dans les livres que l'on découvre. Et au milieu des livres qui parlent quelquefois de droit, on trouvera l'histoire, on trouvera la linguistique, la médecine, la psychologie, l'anthropologie, etc. Le classement, n'en parlons pas, c'est impossible de classer ensemble tous ces ouvrages, et les bibliothécaires ne seront jamais d'accord et déplaceront sans arrêt les livres, et c'est ce qui fera le charme d'une visite dans cette bibliothèque, c'est de trouver des livres les uns à côté des autres qui apparemment n'ont pas grand-chose en commun. C'est le genre de bibliothèque dans lequel le comparatiste adore travailler, la bibliothèque qui lui offre des surprises, une bibliothèque qui est tout sauf une bibliothèque de spécialité. J'en viens à la lettre C. Il y a beaucoup de candidats à la lettre C. Il y aurait évidemment culture, les catastrophes aussi, je pourrais vous raconter. Hein. Je suis arrivé en Louisiane 3 semaines avant Katrina, puis actuellement nous sommes obligés de cuire nos crevettes et nos écrevisses dans l'huile, mais ce n'est pas la bonne. J'ai pensé aussi à catégorie, classement, cloisonnement. Les catégories sont évidemment essentielles au développement de la connaissance. La science a avancé en organisant les choses en catégories. Mais pour le comparatiste, un autre candidat pour la lettre C, il est obligé de les aborder par des chemins de travers, de passer à travers ces catégories. Ces catégories données par un système juridique risquent de figer sa réflexion et son raisonnement, et il doit donc aller au-delà de catégories, questionner les taxonomies pour décloisonner. Je passe à la lettre D, qui est aussi la lettre de définition, de dictionnaire. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire. La définition est un acte de certitude. Quand on voit la définition, on dit « voilà, j'ai trouvé la définition ». Mais D, c'est aussi la lettre du doute. Et le comparatiste doit douter de ce qu'il lit, il doit questionner. Et il doit, quand il trouve plusieurs définitions pour un mot, il ne va pas choisir. Il doit remonter toutes ces définitions. Et puis on se rend compte que le dictionnaire, finalement, n'a pas de début et n'a pas de fin. Il va se remonter à l'origine des mots, et puis on arrive au sanskrit, etc. Et puis qu'y avait-il avant? Et puis en aval, les mots évoluent sans cesse. Il y a de nouveaux sens que l'auteur du dictionnaire va sentir, mais se dire c'est peut-être trop tôt pour l'écrire déjà. La lettre E, pour moi, c'est la lettre de étonnement, émerveillement, celui du chercheur. Le chercheur qui doit toujours être un enfant avec la lettre E. Et je crois que si celui qui fait une recherche n'a pas ou perd cette capacité d'étonnement ou d'émerveillement, je pense que le sel qui le conduit à avancer dans sa science risque de manquer. Le F, frontières. Les frontières linguistiques, les frontières juridiques. Il me semble que j'ai écrit quelque chose qui s'appelait « Les frontières de la langue et du droit » il n'y a pas longtemps. La jury linguistique doit les explorer toutes. Et c'est le défi de la jury linguistique, franchir à la fois les frontières linguistiques et juridiques. Et les juristes, les linguistes sont confrontés là au même défi. Et notre complémentarité, la complémentarité, elle est évidente. Aucune frontière ne devrait séparer les juristes des linguistes. Et nous sommes donc des jurys linguistes. J'en arrive à G. G, glissement. J'ai horreur de glisser. Si on me demandait une de mes phobies, je dirais c'est glisser. Quand on me demande, j'ai grandi pas loin des Alpes, à Lyon, pourquoi tu ne fais pas du ski? Je dis, je n'aime pas le ski, parce que ça glisse. Les seuls glissements que j'aime bien sont les glissements sémantiques. Ceux dont les dictionnaires peuvent retracer l'histoire et jouer avec les mots, déraper quelquefois, aller un petit peu trop loin. Ça peut être aussi parfois un moyen de faire avancer la connaissance, pourvu qu'on revienne quand même à vérifier la définition des mots dans les dictionnaires juridiques, historiques, philosophiques. H, le H de l'histoire. Il y a un beau dictionnaire, je ne vous ai pas raconté, je suis arrivé en Louisiane au moment d'une catastrophe, Katrina, Katrina m'a enlevé ma bibliothèque. Le conteneur avec ma bibliothèque et mes affaires était à la Nouvelle-Orléans. Je m'aperçois, en l'écrivant ou en pensant à ses remarques, il y avait un beau dictionnaire historique que j'aimais bien, c'était le Moore, dans lequel je me plongeais souvent pour trouver des événements, trouver toutes sortes d'informations. Il faut que je le remplace. L'histoire, la petite comme la grande, le comparatiste ne doit négliger aucune. L'histoire officielle et l'histoire non officielle. Il faut lire les deux si on veut comprendre un pays. L'histoire officielle, même si on sait qu'elle est fausse, qu'elle est idéologique, révèle beaucoup sur les systèmes juridiques. Le « i ». J'aime bien la lettre « i ». Je ne l'aime pas en anglais, parce que ce « i » majuscule, un petit peu triomphant, qui met le moi en avant, m'intimide. J'aime le « i », le petit, avec son point dessus. Oh, pas l'expression « mettre les points sur les i », l'insistance, mais c'est Michel Serres qui parlait très joliment du « i » avec son petit point. Mon « i », ce sera le « i » de l'ignorance, parce que finalement, nous sommes tous des ignorants, nous avons tellement à apprendre, nous connaissons certaines choses dans notre domaine, mais quand on fait du droit comparé, qu'on va vers un droit étranger, dans lequel il y a des gens si savants, qui savent tout, qui l'ont étudié toute leur vie, on est obligé quand même d'être modeste et de reconnaître les limites de son savoir. Alors, après, la question de savoir si on est un vrai savant, un bon professeur, j'en sais rien, je l'ignore, avec un petit « i » et son point dessus, et puis je laisse les autres, laissons les autres en juger, lettre « j », la lettre du juge, la lettre de jury linguistique, le jugement, il faut pas en manquer de jugement, mais il faut s'en méfier. Et « j », c'est la lettre aussi de « ius », juste, j'aimais bien les Romains qui l'écrivaient avec un « i », le jus, mais si on l'écrit avec un J, c'est la sève qui nous fait vivre. Et je vous le laisse, cette sève, et je m'en vais vers le cas. Le cas de jurisprudence, le cas de conscience, la classe K de la bibliothèque, le cas de Cassirer qui n'est pas là, les trois cas de Kinder, Kircher, Kircher, le Ku Klux Klan, il en existe encore dans les mentalités là d'où je viens. Ce cas, il me fait peur, hein. Il m'inquiète. Et la peur, c'est connu, donne des ailes. LLB, LLM, LLD, il faut deux ailes pour voler au-dessus des lois, mais un seul suffit à la logique et aux langues, à toutes les langues. Et pourtant, j'aime bien aussi les deux ailes pour langue et liberté. Je lisais hier dans l'avion, traduit en français, un essai de Chomsky, qui porte ce titre, langue et liberté, et qui montre comment, même si les langues sont organisées et ont un système qui parfois peut être relativement rigide, permettent de tout dire et de développer toute forme de pensée. Les ailes nous portent vers ce qu'on aime, la lettre M. La lettre M. On aime le moi d'abord, puisque la Bible nous dit qu'il faut aimer les autres comme soi-même. Donc il faut s'aimer un petit peu soi-même. Ça ne me pose pas de problème. Le M, moi j'aime M, Marie-Antoinette. J'aime le moi. Donc le comparatiste a un problème avec le moi. Parce qu'il vient de la culture juridique dans laquelle il a été formé. Et il doit, pour comprendre d'autres cultures juridiques, transcender en quelque sorte ce moi. Mais la littérature juridique ne nous parle pas tellement de cette démarche. Il faut aller chez les anthropologues. Je vous invite à lire Maurice Godelier qui écrit de très belles pages sur la manière dont il faut aller au-delà de ce moi qui est imprégné d'une culture, celle dans laquelle nous avons été formés. Il faut aller au-delà, mais il ne faut pas la négliger parce que c'est ce moi au départ qui fait que mon regard va avoir quelque chose d'unique et va peut-être voir quelque chose que d'autres n'ont pas vu avant moi. Le moi, le M, c'est aussi la lettre de modestie. Faisons attention, le moi, mais attention, gardons le modeste. Et c'est aussi le multilinguisme, le multijuridisme. Et le M, c'est aussi la moitié de l'alphabet, c'est le moment où je dois regarder ma montre et vérifier, et voilà qu'il va falloir se promener un petit peu plus vite dans la deuxième moitié. N, navigation. j'ai choisi le mot navigation. Nous naviguons beaucoup, les nouvelles méthodes de recherche, les nouvelles technologies nous font naviguer sur la toile. Oh, pas comme l'araignée qui guette sa proie, c'est une navigation active et nous utilisons tous Google et puis l'hyperlien qui est une de ces inventions géniales de notre temps, qui est un instrument qui nous permet de passer d'une information à une autre, faire des rencontres quelquefois inattendues comme celles qu'on fait dans les bibliothèques, comme celles que l'on fait dans le dictionnaire. Mais à ce sujet, je voudrais dire, à propos de la navigation, que rien ne remplace le dictionnaire papier. Car, à côté du mot que l'on cherche, l'œil ne peut s'empêcher de regarder, de visiter des mots qui n'ont rien à voir avec celui-ci. Et c'est toujours un tel bonheur que de s'égarer dans les dictionnaires, de partir dans la recherche d'autres définitions. Il est difficile avec tout ça d'être des chercheurs disciplinés. Et parmi mes dictionnaires préférés, il y a le dictionnaire historique de la langue française, celui qui permet de remonter à l'origine des mots. J'arrive au O, c'est mon initial aussi, l'origine des mots, l'étymologie, l'histoire, il y aurait beaucoup à dire. J'arrive au P, ma promenade dans le dictionnaire, le P de pluralisme, le P de papillon. Jacques van der Linden, que j'ai mentionné tout à l'heure, aime bien se définir comme un papillon, et c'est vrai que c'est sans doute le symbole du comparatiste qui papillonne d'une fleur juridique vers une autre fleur juridique. Avez-vous remarqué qu'au milieu du mot papillon, il y a deux L? Et j'arrive à la lettre Q. C'est un O auquel il est arrivé malheur, le Q. On lui a planté un coup de couteau, là, dans le flanc. Le Q, c'est la lettre de querelle. C'est la lettre de querelle. Le comparatiste est confronté aux querelles. Est-ce qu'il doit prendre position dans les querelles, et les querelles des anciens et des modernes? Il y a toutes sortes de disputes. Le droit comparé, sans doute, nous apporte cette capacité à aller quelquefois au-delà des querelles, à nous faire comprendre que la querelle est liée à un contexte culturel, politique du moment. Il permet souvent de les dépasser. J'arrive au R. Vous manquez d'air? Respirez, je vais vous chanter l'air du refus. Refus, le refus des idées toutes faites, le refus du confort intellectuel. Oh, je dirais aussi le refus des honneurs, s'ils doivent abréger la promenade du chercheur. Le refus des compromis, pas ceux qui permettent de vivre ensemble, mais ceux qui conduisent à la négation de la libre ou indépendante recherche. Le S, oui, refus, parce que le comparatiste ne peut pas être tenu en laisse. Le S, qui serpente comme le sentier, le chemin de la connaissance, qui est rarement tout droit. Le S, j'ai aussi le mot standard, qui est un terme à distinguer de la règle de droit qu'on trouve dans tous les systèmes juridiques et sur lesquels j'ai écrit. Standardisé, on se dit c'est uniformisé, mais le standard est pourtant une technique juridique qui permet de protéger la diversité. Instrument d'étude passionnant pour le comparatiste. Toujours à la recherche de la diversité, l'heure du thé, le thé de traduction pour les jurislinguistes, c'est sans doute votre tasse de thé. Le U, ben oui, bien sûr, parce que la traduction est au centre de notre univers, un mot beaucoup trop vaste pour que je m'y attarde, et donc je vais passer à V, la lettre qui permet de vérifier. Pour mieux comprendre les textes, on vérifie dans le dictionnaire. La traduction, au fait, est un moyen de vérifier les textes, c'est un moyen de compléter les textes. La lecture de Walter Benjamin ou encore le dernier ouvrage de François Host, Traduire, est un ouvrage passionnant qui nous amène dans l'entre-langue et qui montre comment la traduction donne un autre visage au texte, complète en fait le travail de l'auteur. J'approche de la fin, j'ai W, j'ai déjà parlé du web, je ne vais pas y revenir, j'aperçois le wagon de queue de ma promenade, et j'arrive au X, mon rayon X, celui qui détecte la xénophobie, que le comparatiste va rencontrer, hélas trop souvent, le juriste aussi, et il faut le combattre à chaque instant. J'arrive au Y. Le Y est la seule lettre de l'alphabet pour laquelle j'ai été obligé d'ouvrir mon dictionnaire. Qu'est-ce que je vais mettre au Y? Alors j'ai pris le petit Robert, j'ai vu qu'il n'y avait qu'une page et demie de mots qui commencent par Y dans la langue française. Mais pas beaucoup. Alors j'ai laissé le yo-yo de côté, parce que le yo-yo c'est fatigant, je ne vais pas jouer au yo-yo devant vous. Mais j'ai pris les yeux. Les yeux, le regard du comparatiste. Les yeux, car il en faut deux pour voir le relief des choses, il en faut deux pour voir les choses en profondeur. Ces yeux qu'on ouvre pour mieux voir, ces yeux que l'on ferme pour réfléchir, pour dormir encore, paraît-il, ils soient très actifs sous les paupières. C'est une chose tellement importante et le comparatiste doit, a le devoir vis-à-vis de son lecteur, d'expliquer, de définir son regard, de dire de quel point de vue il se place pour décrire telle ou telle règle ou tel système juridique. Ces yeux, on les use aussi quelquefois dans le dictionnaire. Mon Dieu, qu'ils sont écrits petits, quelquefois. Hein. Je suis obligé de jouer comme ça avec les lunettes pour lire le dictionnaire ou quelquefois prendre la loupe. Alors je n'ai pas vu comment il est, celui de A à Z, s'il écrit gros ou petit. Nous arrivons au bout de la promenade, les yeux demi-ouverts, hein, parce que tout de même je vous ai fait courir un petit peu vite. Et je vais vous laisser, et je vais vous laisser dans une zone, lettre Z, le comparatiste aime circuler dans celles qui sont obscures, les zones qui séparent les mots, les catégories. J'ai écrit aussi sur la zone grise entre tort et contract, entre les notions de contrat et de délit ou délit civil. Ce sont les endroits dans lesquels nous apprenons finalement énormément de choses. J'ai été trop long ? Zut, alors. Tout de même, c'est un drôle de scène, le comparatiste. Allez, je vous remercie.